manquent pas. Heureusement qu'enfant, on ne se drogue pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes pour l'instant trois. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Gbmich.
Bonsoir tout le monde.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une émission spéciale, puisque nous allons faire un petit tour au Japon, un pays qui nous affectionne tout particulièrement, puisqu'il est très lié à l'univers geek, et on va profiter des Jeux Olympiques pour y faire un petit tour. Et on va tout de suite commencer, puisqu'on parle des Jeux Olympiques. On a pu voir, lors de la cérémonie d'ouverture de cette édition de 2021, un festival de musique qui nous a particulièrement plu, puisque nous avons eu le droit à des musiques de jeux vidéo. Et pas n'importe lesquelles, hein, quasiment les meilleurs titres qu'on a pu voir créer, en tout cas au Japon. Alors, je sais que vous ne suivez pas forcément l'actualité des Jeux Olympiques, mais bon, est-ce qu'il y a quelques titres qui vous ont marqué lors de cette ouverture de Tokyo ?
Ouais, en fait, tu retrouves à l'oreille les jeux avec lesquels tu as énormément joué, que tu as poncé comme pas possible. Et il m'a semblé avoir reconnu une musique de Chrono Trigger. Mais alors, te dire le nom exact, aucune idée.
Alors, il y en avait deux de musique de Chrono Trigger. Le premier était Frog's Theme, qu'on va écouter juste après. Et il y en avait également une deuxième, un autre thème. On a pu voir Kingdom Hearts, qui est aussi un RPG qui n'est plus à nommer maintenant, qui fait partie de cette base de jeux qui reste mémorable. Dragon Quest.
Pareil avec les Final Fantasy, c'est des énormes licences au Japon.
Final Fantasy, forcément. Winning Eleven, puisque du coup, là, c'était un jeu vraiment de sport, de football. On a eu du Soul Calibur, du Phantasy Star Universe, du Gradius, que des grands titres, et bien sûr, en version orchestrale.
Ce qui m'a étonné, par contre, c'est que dedans, tu as eu une musique qui m'a un peu fait bizarre à l'oreille quand tu écoutes. C'est que tu as quand même une... Alors, je ne pourrais pas te dire si c'est une reprise ou non, mais tu avais du Sonic.
La musique de Start Light Zone.
Et qui, pour moi, Sonic n'est pas affilié au Japon et donc par extension à Nintendo. Et tu vois, ça m'a paru bizarre de l'entendre.
Mais est-ce que le but n'est pas justement d'ouvrir ça à grande ampleur, quoi ?
Alors,
on va s'écouter donc Chrono Trigger avec le thème de la grenouille, de Frog's Theme, pour ces Jeux Olympiques.
Thank you.
Chrono Trigger, le jeu sorti sur Super NES en 1995. Et alors c'est marrant puisqu'on a pu voir sur ce jeu qui a été développé par plusieurs grands créateurs, donc Yuji Horii qui est le créateur de la série Dragon Quest, Sakaguchi celui de Final Fantasy et Toriyama celui qui a créé Dragon Ball qui quand même, voilà, trois grands univers qui se réunissent pour l'un des meilleurs RPG. Alors ça, je peux le noter, hein, je pense que je vais pas me battre avec grand monde. Il est dans les top 3 des meilleurs RPG qu'on a pu voir sur Super Nintendo, avec des musiques. Alors ici, ce qui est marrant, tout le monde pense que c'est Nobuo Uematsu, mais à la base, c'était Mitsuda, Yasunori Mitsuda, qui ensuite a été remplacé par Nobuo Uematsu. Voilà, ça reste des musiques incroyables, un gameplay qui était assez innovant pour l'époque. Ici, on est sur du tour par tour. Et on a pu voir, notamment, sur Google, un petit jeu qui dénotait un peu cette originalité qu'avait Chrono Trigger et ce RPG 2D. On a pu le retrouver donc sur la page principale de Google avec un petit jeu, justement pour faire honneur aux Jeux Olympiques. Et on a pu tester ça, Rénal.
Tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Chrono Trigger, c'est qu'il a fait parler de lui sur le fait aussi qu'à l'époque, les jeux étaient beaucoup avec des rencontres aléatoires pendant la partie. Et c'était un des jeux, je pense pas que ce soit le premier, mais un des jeux sur lesquels les rencontres aléatoires n'existaient pas. Il fallait forcer les combats en rencontrant les ennemis qui étaient sur l'écran. Donc déjà, à l'époque, c'était un changement. Et ça a pu aider aussi à faire une autre trame scénaristique que les jeux 2D à l'époque faisaient avec la rencontre aléatoire, le leveling de perso, comment rendre tes personnages plus puissants, c'était quand même différent.
Moi, ce qui m'a marqué, c'était la combo. On pouvait faire des combos entre chaque personnage, donc tu choisissais d'ajouter dans ton équipe la grenouille, par exemple, avec le guerrier, et ensemble, ils faisaient une combo à l'épée incroyable, et c'était vraiment bien fait pour l'époque. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on parle souvent des remakes de jeux vidéo, ça serait un remake qu'on aurait plaisir à rejouer,
ouais, tout
sans
à
problème.
Fait.
Alors, je parlais de Google, puisqu'il nous sort un doodle carrément japonais ici, de RPG et sur le sport.
Tout à fait. Et en plus, pour ceux qui ont l'habitude de cliquer justement sur le doodle pour voir la petite animation qui correspond au doodle du jour en question, là, une fenêtre va s'ouvrir, une animation va se faire, très jolie d'ailleurs, et vous allez pouvoir incarner un petit Firefox, on va appeler ça comme ça, un petit renard, Micha ou...
Tant que tu dis que c'est pas un chat, moi tout me
bah, j'allais dire un Firefox par rapport à justement Firefox, mais... Est-ce que sur Chrome, tu l'as aussi? Enfin, parce que jusqu'où je veux aller, voilà. Et on se retrouve sur une île et on peut se déplacer avec les flèches du clavier et interagir avec la barre d'espace. Et là, on nous propose une épreuve. On doit gagner une petite partie de ping-pong, basique, comme un jeu flash d'époque. Et une fois que ça c'est fait, ça nous ouvre plusieurs épreuves qu'on peut faire. On peut même choisir une équipe, une couleur d'équipe, regarder le classement de notre équipe. Alors là, il y a des. Alors, je ne sais pas si c'est un classement fait par le nombre de joueurs qui se trouvent dans cette équipe ou le nombre de fois que le jeu a été fini avec l'équipe. Mais il y a déjà des scores à plus de 111 millions, enfin, etc. Mais il y a aussi la petite touche RPG qui font que quand on va faire une épreuve sportive, donc elle est déjà fait un peu le côté japonisant. Donc il y a toujours des petites créatures qui ressemblent au folklore du Japon ou à la mythologie.
C'est ça, on pourrait quasiment se plonger dans un univers de Ghibli ici.
Tout à fait.
Oui, complètement.
Et au moment où vous allez vers pour faire cette épreuve, il y a une petite zone dans laquelle il y a un univers propre à cette zone, donc soit des monts volcaniques, soit une ville high-tech remplie de joueurs, qui vont vous proposer des quêtes, donc des petites quêtes, ce que nous on appellerait pour les joueurs de MMO les quêtes FedEx. Allez, va chercher tel objet, reviens avec l'objet. Des fois, c'est un peu plus compliqué parce que pour trouver l'objet, il faut aller chercher un autre objet avant. Donc, pour le commun des mortels, c'est pas trop mal. Et il y a aussi un système de classement et de trophées. Et quand vous allez dans la pièce des trophées, vous vous rendez compte que quand vous finissez une quête, vous avez un trophée qui s'affiche. Donc, pour cela, tout va bien. Et il y a 22 trophées. Et ayant joué un petit peu, ayant fait toutes les épreuves sportives que le jeu nous proposait, je n'ai gagné aucun trophée. Je n'ai gagné que des trophées en finissant les petites quêtes à droite à gauche. Pour tester ce petit doodle, j'ai passé un bon 25 minutes, 30 minutes dessus.
Et c'est ça qui est marrant.
Je suis vraiment qu'au début.
pour un petit feed sur Google comme ça, on passe quand même un petit moment sympa. On pensait juste cliquer pour dire bah tiens qu'est-ce que nous sort Google, et en fait on passe un bon moment à jouer comme ça avec son clavier, c'est assez rigolo.
Et les épreuves sont, comme je disais, vraiment des petits jeux qu'on aurait pu avoir comme on avait à l'époque en Flash, mais toujours bien pensés. Bon, sauf quand on arrive sur une épreuve de ping-pong ou de tennis de table, où là c'est forcément plus terre-à-terre. Il n'y a que la personne à combattre qui est un peu typée japonisant. Mais sinon, je me souviens d'une épreuve d'escalade où il faut pouvoir sauter, mais en même temps avoir une maniabilité gauche-droite, tout en esquivant ce qui nous tombe dessus. C'est un bon petit jeu, on pense y rester que 5 minutes. En fait, une demi-heure
et
plus tard...
Et quand tu relèves la tête, tu fais « Ah, ouais.
Voilà, on est là, c'est « Ah, pour avoir ce trophée, il manque un bâton à trouver pour le sculpteur, machin, en sud-est de la carte, etc. » Et on regarde et on fait « Ah ouais, je suis déjà 3/4 dessus. » Alors qu'au début, tu vas voir ta page Google pour faire une recherche et en fin de compte, tu as fait 3/4 de jeu.
Mais vraiment, vraiment bien pensé et voilà. Un petit jeu sympa et pour le coup, c'est gratuit.
Par contre, pour information, une fois que vous fermez votre onglet ou fenêtre qui se trouvait le jeu, vous perdez votre progression. Et là, je viens de réessayer avec l'ordinateur qu'on utilise pour la radio. Même si mon compte Chrome ou Firefox ou autre Internet est lié à mon adresse Gmail, j'ai dû recommencer le jeu. Je n'ai pas retrouvé ma progression.
Il n'y a pas de point de sauvegarde. Ouais.
Non.
D'accord.
On va te laisser 20 minutes entre chaque musique pour que tu remettes ton score à jour. Alors, je vous propose, puisque aujourd'hui, on s'est proposé de faire une petite initiation musicale pour ceux qui soit connaissent très bien le Japon ou ceux qui ne le connaissent pas trop, pour voir certains artistes qui peuvent plaire ou qui seraient intéressants de découvrir. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir avec un guitariste japonais, un des plus grands de son pays. C'est Masayoshi Takanaka. Et je vous propose d'écouter tout de suite une petite chanson qui s'appelle Tokyo Reiji. Thank you. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+ dans l'émission Heureusement en France. On continue notre petit tour musical au Japon puisque on célèbre avec les Jeux Olympiques. Voilà quelques petites actualités. Alors, vu qu'on parle de cette cérémonie, on a pu voir une démonstration technologique assez innovante avec un spectacle de drones.
Exactement, ouais. C'était l'ouverture des JO. Il y en avait plus de 1800. Il y en avait 1824 exactement. Et ça représentait la planète en fait, avec tous les continents. Et c'était vraiment extra beau à voir en plus.
Alors ici, je pense qu'on n'est pas sur des 1500 pilotes
c'est
en bas
dire,
qui
ouais.
cherchent
non,
chacun
non, non,
leur drone.
Ouais,
ici, on est sur une programmation de chaque drone qui ensuite exécute avec précision, puisque pour le coup, si l'un touche l'autre, c'est fini.
Ouais, bien.
Je crois que dans le spectacle, il tombe à l'eau.
Avec les changements de couleurs, tout est programmé, ouais.
Et c'était vraiment super intéressant à regarder du coup. Et c'est là qu'on voit que les Japonais ont su montrer leur culture aux Jeux Olympiques, puisque quand vous recevez les Jeux Olympiques, vous payez déjà une fortune pour montrer l'événement. Donc généralement, derrière, vous essayez de faire une promotion de votre culture. Ils l'ont fait déjà avec le jeu vidéo, et là, avec la technologie des drones. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres choses telles que les mangas? Puisque tout à l'heure, on va bien sûr rentrer dans l'univers des mangas, et on vous parlera de quelques pépites qu'on a décelées tout au long de notre carrière de geek sur les meilleurs mangas de sport. Alors, il y en a tellement que chacun a ses propres préférences. Alors, on va continuer dans l'univers musical et on va parler d'un groupe. Puisque GBMI est venu dans l'émission en demandant si on pouvait parler...
C'est un peu exagéré.
Moi, je suis témoin, t'as demandé.
D'un groupe qu'il suivait de près.
J'aime bien
et qu'on appelle AKB 48. Parce qu'il faut le dire... comme en anglais, donc,
ouais.
AKB 48, qui est un groupe féminin de J-pop, qui nous date de 2005. Et alors, dans la J-pop, on ne fait pas les choses à moitié, puisqu'ici, on a 20, on a 20 jeunes filles, alors, jeunes chanteuses à l'époque, hein, en 2005, qui se sont lancées dans cette aventure. Alors, ça allie le spectacle et la musique.
Ah, c'est des idoles, en fait, non C'est plus ça, hein. C'est pas vraiment. Elles sont pas là pour.
Elles sont là pour exécuter une chorégraphie et faire cracher l'argent
c'est ça,
aux fans.
Exactement.
Ouais. Généralement, ce genre de groupe, si t'en as 20 sur scène, c'est que t'en as 50 en backup et ça tourne dès qu'il y en a disponibilité.
Je dirais 48 puis... même.
Ouais. François, il commence.
Pardon.
Alors, j'ai découvert ce groupe puisque. Comme elles font des réunions Discord, je pense, ou un autre.
Non, c'est vrai, c'est Zoom, il me semble. Ouais.
Voilà, on va faire de la pub, hein, Google Meet, etc. Bah, voilà.
C'est toi qui commence.
Il y en a plusieurs. Et elles se filment en train de discuter, puisque pendant la période de confinement, c'était extrêmement difficile de faire de la promotion sur scène, etc. Donc ça leur permettait peut-être d'avoir quelques subscribers et de gagner un peu d'argent sur le côté. Surtout que quand t'es 20, ben il faut multiplier par 20 les revenus.
Tu veux dire de Idol, elles sont passées à Cam Girl?
Elles font les deux.
Après, ça a été basé... Il y a une série d'animation qui était basée sur ce groupe. Oui. Mais ça, c'est AKB 0048 ou truc du genre.
D'accord. Alors, on va s'écouter tout de suite. Alors, attention, c'est de la J-pop. Préparez-vous, puisque l'aventure peut être déroutante, surtout après un morceau qui était un peu style Dalida.
Voilà.
Donc, c'est AKB 48.
Have
Alors, je vais avoir quelques difficultés à vous donner le nom du titre qui est marqué en japonais. Mais il y a Daisuki Takara, donc quelque chose du genre je t'aime aussi. C'était le groupe AKB 48, le groupe de J-pop qui tourne encore.
Préféré attention. De GB Misasa.
C'est, voilà.
Exactement.
Et on a quelques anecdotes qu'on ne citera pas, hein, par respect pour la personne.
Ou pour la radio.
Alors, vu qu'on parle du Japon, on va vous parler de quelques événements qui vont se passer, alors, dans la région ou quelquefois un peu plus loin. Alors, c'est vrai que beaucoup d'événements qui avaient lieu cet été ont été annulés, mais cela n'empêche que tout ce qui est au courant septembre ou 2022, pour l'instant, reste sur le papier. Alors, ça va nous permettre de citer quelques événements. Alors, bien sûr, près de chez nous, on aura bientôt les Geek Days à Lille, qui se passeront donc du samedi 4 au dimanche 5 décembre. Un événement qu'on attend beaucoup dans la région lilloise. On est content pour l'instant qu'il reste programmé.
Si je dis pas de bêtises, les Geek Days, c'est pas seulement à Lille. Il y a plusieurs éditions.
C'est ça. Il y en a une à Amiens, si je ne me trompe pas.
Et dans d'autres régions de France aussi, donc pour aller voir sur le site geek-days.com pour avoir la liste des villes.
En juillet, on aurait dû avoir la Japan Expo qui sera reportée au 14 et 17 juillet 2022, un événement qui était à la base synchronisé avec la Comic Con et qui, par cette affluence exceptionnelle, à un moment, ils ont dû dire « bon voilà, on va séparer ». Les deux événements. Donc maintenant, on a la Japan Expo et la Comic-Con qui se passent différemment. Et c'est vrai que la Japan Expo, c'est une expérience à vivre, surtout pour les fans de cosplay et également pour ceux qui veulent se dénicher quelques petits goodies sur le Japon, puisqu'on a extrêmement beaucoup de magasins. Oui, bon, c'est pour mettre vraiment
l'accent
sur le fait qu'il y en a beaucoup. Alors, un autre événement, la Douai Manga Expo, qui aura lieu le 25 septembre, donc pour parler un peu de manga. Et si je ne me trompe pas, c'est leur deuxième événement, cette fois-ci. Le Salon Kawaii, qui aura lieu cette fois-ci le 6 novembre. Alors, Salon Kawaii, kawaii ça veut dire cute, mignon, oui, en japonais. Et eux, alors pour eux, c'est la deuxième édition du coup.
Ça se passe à Saint-Angoël, dans le Pas-de-Calais.
Voilà, pas très loin de chez nous, puisque maintenant, en DAB+, on va émettre pas loin du Pas-de-Calais, donc c'est une bonne nouvelle. Et on aura d'autres événements qu'on va citer tout à l'heure. Alors, j'ai d'autres musiques.
Attends, par contre, je vois pour le Douai Manga Expo, qui marque qu'il revient du 25 au 26 septembre. Juste le paragraphe d'une information que j'étais en train de rechercher, je vois qu'il est marqué que les organisateurs doivent annuler le salon Douai Manga Expo 25 et 26 septembre. Par contre, les deux paragraphes indiquent qu'il est là, mais en même temps, il n'est pas là, et que les contributeurs seront remboursés. Donc, vérifiez, si l'info vous intéresse, vérifiez quand même la possibilité d'y aller.
Tu m'attristes grandement, là, du coup.
Bah, surtout que Douai, c'est juste à côté, donc c'est dommage qu'un salon sur le manga disparaisse, quoi.
Ah, c'est surtout qu'avec les normes actuelles, c'est assez difficile de maintenir un événement, puisqu'on a l'impression que du jour au lendemain, on change les règles du jeu. C'est jamais facile. On va s'écouter un autre groupe qui s'appelle Biz, B/S, qui est un groupe de pop-rock japonais, initialement influencé par les Beatles et Led Zeppelin. Ouais, ça promet. Hein. Et qui, depuis 1968... nous font découvrir quelques musiques rock assez sympathiques. Je vous propose d'écouter la chanson Bad Communication de leur album qui s'appelle Bad communication, c'est bien trouvé. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus. en compagnie de moi-même, François, Reynald, Jérémy et Dominique. Nous sommes partis pour un voyage initiatique au Japon pour faire une expérience musicale exceptionnelle. Alors, j'ai ramené autour de la table quelques mangas papier. C'est assez rare dans l'émission pour vous parler de shonen, du coup, des mangas qui sont liés à l'univers du sport. Et vu qu'on parle des Jeux Olympiques, c'est parfait. Alors, c'est vrai qu'un des sports, alors je vais pas dire le sport national, mais un des sports favoris des Japonais, c'est bien sûr le baseball. Et on a pu voir forcément de nombreux mangas liés au baseball. Et je vais vous citer quelques-uns qui vaillent le coup d'œil, alors qu'ils sont pas forcément faciles à trouver, ou qu'on peut voir en vidéo. Alors, le plus connu, ce serait peut-être Touch, Dominique ?
Touch de Mitsuru Adachi, qui est un fan de baseball, qui a fait d'autres séries sur le baseball. En français, la série animée, c'était Théo ou la batte de la victoire. Un super nom. Et on suivait, alors si je dis pas de bêtises, parce qu'il a fait, comme il a fait pas mal de séries sur le baseball et sur le sport en général, j'hésite entre Touch et comment elle s'appelait la série H2, où on suivait des jumeaux, enfin deux frères, qui étaient jumeaux, qui étaient tous les deux fans de baseball, et il y a l'un des deux frères qui meurt, et l'autre qui était un petit peu moins, un peu plus feignant, un peu
c'était
moins.
C'était super gay au démarrage.
Ouais, c'est ça. Tout de suite, celui qui est mort, c'était celui qui était destiné à devenir un futur champion, qui était le meilleur des deux. Et l'autre est un petit peu poussé à prendre le relais de son frère. Ça a duré, je ne sais plus combien de temps, mais je suis absolument fan de Mitsuru Adachi, de toutes ses séries. Il a fait quelques séries sur la boxe aussi, qui sont vraiment bien. Lui, c'est vraiment un fan de sport et il applique bien dans toutes ses séries.
Un autre manga qui, moi, m'a assez marqué et qu'on peut voir notamment en version papier, c'est Go and Go, qui n'est pas forcément très connu. Et là, vous suivez Nita, qui vient d'intégrer une équipe de baseball. Et
ça se passe souvent, oui, on ne l'a pas précisé, ça se passe souvent au collège ou au lycée. C'est-à-dire qu'on suit toujours très souvent des jeunes. Ce n'est pas les professionnels qu'on suit, quoi.
Puisqu'il y a un grand tournoi, forcément, au Japon, que tout le monde veut intégrer. Alors, ici, Nita est dans un lycée qui s'appelle Oyo, et il n'a qu'une particularité, c'est qu'il lance la balle super vite.
C'est bon.
Voilà, c'est tout.
C'est tout. Et on ne sait pas où, mais il la lance très vite.
Voilà, il a l'arrogance de rejoindre une équipe de baseball, sauf que il lui manque toute la technique du baseball, tout ce qui va avec, et on le voit un peu intégrer, évoluer dans une équipe de baseball où les gens le regardent un peu de travers, parce que déjà il s'est teint les cheveux en blond, ce qui est assez atypique. En tout cas, à l'époque.
Un peu comme si, par exemple, on avait un joueur de football qui maîtrise super bien le ballon, mais qui connaît absolument pas les règles, ni le hors-jeu, ni rien, puis qui sait même pas tirer, qui saurait pas tirer. Tout ce qu'il sait faire, ça serait dribbler, par exemple, mais dès qu'il fait une passe, ou il est nul, ou je sais pas quoi.
Ou juste tirer fort.
Oui, il a un caractère pourri, il s'entend pas avec les autres, il obéit, il est toujours en retard aux entraînements, mais voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Il y a un petit peu la même chose dans un manga, mais qui est sur le basket, un manga qui est super connu.
C'est Slam Dunk. Les personnages se ressemblent, effectivement. Ah. Oui. Le personnage, la Nita, ses deux passions, c'est le baseball et la masturbation, par exemple. Et il arrive dans l'équipe comme ça. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans Slam Dunk. On a un petit côté comédie de personnage qui n'est pas forcément compétent dans son domaine, mais qui a sa particularité, qui fait que les gens l'aiment bien, mine de rien.
Il est persuadé d'être un futur champion, etc.
C'est ça.
Ouais, ça me rappelle vachement Slam Dunk, où on suit le personnage qui est une espèce de... C'est un bagarreur, quoi. En plus, il a cheveux roux dans le manga, et il pense qu'à se bagarrer, c'est vraiment un pur délinquant, et il croise une fille, il arrive dans un lycée, il croise une fille, et il tombe un peu amoureux d'elle, et il s'aperçoit qu'elle est manager du club de basketball. Il dit, en plus, il est super grand pour un japonais, donc il dit, je vais intégrer le basketball, mais il est tout en puissance, etc., il est complètement nul en technique, et c'est la petite sœur du capitaine de l'équipe, et il finit par devenir bon. Enfin, on va pas spoiler, mais Slam Dunk, c'est existe en série aussi. Il y a même des jeux vidéo, bien sûr, qui ont été adaptés. C'est vraiment une top série. Et c'est le personnage qui est tout bizarre et qu'on va suivre et qui va changer aussi bien dans le sport que dans la vie scolaire, quoi. Qui va évoluer. C'est toujours intéressant.
C'est ça que j'ai un peu du mal avec les mangas. Bon, tu me diras qu'on peut trouver exactement la même chose avec les BD de type franco-belge et compagnie, mais c'est qu'on a toujours le même circuit entre le héros ou l'héroïne. C'est que tu as une personne avec son point fort et surtout ses points faibles, il se fait une grande désillusion, il se déconstruit directement, et après il est porté par des amis, et il est reconstruit, et il va encore plus loin, et il gagne. Pour moi, là, je viens de te donner le scénario de tous les mangas. Non, mais de tous les mangas que j'ai pu lire, voir. Enfin, c'est affolant.
C'est vrai, mais ça reste toujours passionnant parce que, selon la qualité des auteurs, quoi. Mais ils arrivent quand même à nous emporter, à nous faire nous attacher à ces personnages.
Un autre manga assez particulier, c'est Rookies, qui nous parle également de baseball. Alors, c'est un manga dans le style qui est créé par Masanori Morita, qui a pu faire Rakai Blues, Rookie et Shiba Inu, qui a un style de dessin assez particulier, et aussi des histoires qui sont un peu violentes des fois, puisqu'elles parlent vraiment des jeunes qui sont limite dans des gangs. Mm-hmm. Et ici, ils s'initient tous ensemble au baseball pour un peu essayer de sortir de cet engrenage qui les fait dévier vers quelque chose
de plus sombre.
Voilà. Et c'est un manga extrêmement rare à trouver, mais qui est extrêmement sympathique. Un autre, toujours sur le baseball, on a Ogiku Furikabute, qui est alors très peu connu, mais qui est pour le coup assez exceptionnel, qui peut être un peu déprimant, parce qu'il surfe un peu sur le drame. Ici, on a Miyashi, qui est un lanceur qui rejoint une nouvelle équipe. Et lui, à l'inverse du manga qu'on a parlé tout à l'heure, celui qui lance super vite, lui ne lance pas vite, mais il lance de manière extrêmement précise et il s'entraîne tous les soirs et sa vie ne tourne qu'autour du baseball. Et c'est vraiment bien dessiné. On a des super musiques également. Alors, bien sûr, on va parler à la grande audience. Si on parle de sport et qu'on parle de manga et d'anime, on va forcément parler de
Prince of Tennis.
Merci.
Enfin. Tout le monde attendait Captain Tsubasa, mais non.
Enfin.
Alors, je vais même me faire le petit plaisir de mettre de la musique d'ambiance pendant qu'on en parle. Pour moi, l'un des meilleurs shonen, ça restera Prince of Tennis, où on suit... Dominique me regarde.
Des personnages un peu atypiques qui vont évoluer dans le tennis, c'est ça ?
On reçoit Echizen, qui est un pro du tennis qui a évolué en Amérique. Alors, il doit avoir 12 ans, il rejoint son école et il est dans les classes les plus basses où ils n'ont pas normalement le droit de rejoindre l'équipe de tennis, mais lui, il est tellement fort qu'il rejoint les plus grands. Et il va naviguer avec son arrogance pendant des centaines et des centaines d'épisodes avec les plus grands joueurs, d'abord de son collège, ensuite de la région, ensuite du pays.
Est-ce qu'on rencontre des vrais pros du tennis ?
Agashi.
Ah, Agashi, ok.
On en parle juste rapidement. Et le manga commence assez... simple, dans la manière où les coups qu'ils vont faire restent possibles, et à la fin ils tirent et puis ils détruisent avec une météorite les dinosaures. On regarde avec un œil ironique ce manga d'une manière extrêmement plaisante.
Parce que là tu parles de manga papier.
Ah, là c'était un animé.
C'est un animé, parce que oui, l'animé me disait quelque chose, mais je ne savais pas si tu parlais d'un manga papier.
Il y a les deux. Il y a le papier souvent, qui est autour de la table.
Parce que l'animé, oui, je me souviens de certaines scènes. Oui, effectivement. Oui, Blood Dawn ne sera jamais pareil.
Ça reste mon coup de cœur.
Ouais, je remarque que dans tout, c'est vrai que la plupart des mangas que j'ai lus, enfin, en tout cas dans le thème sport, c'est des garçons qu'on suit. Il y a assez rarement des mangas où les héroïnes sont les filles. Il y en a bien sûr.
On peut parler de Jeanne et Serge.
Et encore, ouais. Là, t'as les deux, là. T'as une romance
particulièrement. Ouais. Il y a quelques... Ouais. Enfin, c'est vrai qu'il y a une grosse majorité où on suit les héros qui sont des jeunes garçons en général. Où les filles sont là, c'est plus pour la romance. C'est la fiancée ou la manager de baseball, par exemple.
Voilà. Moi, si je peux vous conseiller quelque chose, et en plus, vous avez tellement d'épisodes, c'est Tennis no Jisama. Et bien sûr, Capitaine Tsubasa.
Olivier Tom.
Mais qui n'a pas fini, hein, puisqu'on continue à avoir des petites séries comme ça de droite à gauche.
Ils évoluent, puisqu'ils essayent de coller à l'actualité, parce qu'à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, en général, il y a pas forcément une nouvelle série, mais il y a des séries qui ont évolué.
Il y a Mark Landers qui revient, qui crée sa
brosse. Ils n'ont pas vieilli non plus depuis le temps.
Alors, ce qui est marrant, c'est que Capitaine Tsubasa prend tout son sens au Japon, mais lorsque la série arrive en France, on appelle ça Olive et Tom. Mmh. Sauf que Tom, au bout du quatrième épisode, disparaît et on ne le revoit pas pendant des saisons. Et c'est assez marrant d'avoir mis ce nom Olive et Tom alors que l'un des participants n'est même pas là.
Oui, c'est vrai, c'est une série qui est revenue un petit peu, enfin dans l'actualité, beaucoup de gens qui... Parce que je crois que c'est ressorti, ça a été rediffusé, etc., mais sous le nom de Captain Tsubasa cette fois.
Cette fois-ci, les personnes qui ont voulu traduire le titre n'ont pas eu besoin de regarder qu'un ou deux épisodes pour choisir un titre pour la traduction française.
On garde 5 minutes. Oh, il y a deux personnages, vas-y, ça va faire une complicité. Alors, je vous propose soit du tennis de Jisama en musique, de l'Okiku Furikabute, du Capitaine Tsubasa ou du Slam Dunk.
Ah, Slam Dunk, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu les musiques.
Allez, c'est parti, on va s'écouter Slam Dunk avec le groupe Wenz. Pour le coup, pas très connu.
Yeah.
Slam. Dunk avec Sekai Gaowaru Madewa du groupe Wens.
Bien dit.
Tu t'es pas entraîné pendant toute la chanson à le dire. Pas du
non,
tout.
Non, mais j'apprends le japonais grâce à des applications mobiles. Donc petit à petit, hein, je vais y arriver. Dominique, tu avais une dernière petite série.
C'est pour montrer qu'il y a des mangas sur absolument tous les sports. Enfin, presque. J'ai pas encore trouvé de manga sur la pétanque, mais
ça existe.
Mais même sur le rugby, un manga que j'avais découvert il y a 2-3 ans, en version animée, mais ça existait aussi en manga. Ça s'appelle All Out. Et on voit un jeune lycéen encore qui découvre le rugby. Sauf que lui, genre, il doit mesurer 1m40. Et par rapport aux autres joueurs de son année, il rejoint l'équipe, mais lui, ce qu'il veut, c'est tacler. Le jeu à la balle, il connaît rien, il sait même pas à quoi ressemble la balle. Lui, il voit les mecs courir, il veut juste sauter, leur plonger dans les genoux pour les foutre. C'est tout ce qui l'intéresse. Et petit à petit, il apprend. Mais il est obligé de suivre tout l'entraînement. Et ensuite, tout l'entraînement. En plus, c'est vrai qu'on apprend plein de trucs sur un sport qui est connu en France, mais le rugby, plein de règles spéciales, etc. C'est très intéressant. Donc, et c'est sorti, je crois que c'est sorti en vidéo chez Kana Edition et en manga aussi certainement.
Alors des shonen de ce type, il y en a des centaines sur tous les sports. Alors est-ce qu'on peut considérer les échecs, le go comme un sport?
Pourquoi sport mental,
pas
tout
vraiment,
à fait.
Pas vraiment.
Si. Oh, oui, ça,
ah, si, non, ça te consomme énormément d'énergie pour
parce que pour j'ai bien failli jouer. Mettre Hikaru no Go dans la liste.
Il y a un peu de ça, parce que c'est un jeune homme qui suit, qui progresse, qui découvre, qui s'entraîne, qui fait des compétitions. Mm-hmm. Donc c'est la même chose. Tu aurais mis la boxe à la place. C'est le même principe. C'est toujours le même principe. Oui, c'est ça. C'est le principe du shonen, quoi, comme Dragon Ball. C'est un héros qui est tout faible, et qui progresse. On va suivre sa progression jusqu'à la fin, c'est ça qui est intéressant.
Et c'est un type de manga qui marche extrêmement bien au Japon et qui n'a pas fini justement
de... Et pas forcément que chez les jeunes ou les ados qui sont le public dédié normalement.
C'est vrai qu'ici, lorsqu'on parle de manga, on s'adresse généralement à une population assez jeune. Mmh. Alors que si on part au Japon, lorsque vous prenez le train, vous pouvez voir une personne de 80 ans avec un shonen dans les mains, avec les magazines qui regroupent, puisque là-bas on a des regroupements avec chaque fois des petits épisodes de chaque manga.
Le souci,
les Shonen Jump, on appelle ça.
C'est que en France et dans certains pays européens, tu as le manga qui est considéré comme une BD, et la BD étant considérée jeunesse. Après, la BD et le manga ont évolué dans le sens où tu as de très bonnes BD de type adulte, tu commences la BD, t'es jeune. Les parents, ils te donnent une BD dans les mains pour que tu commences à apprendre à lire, plutôt qu'un roman, par exemple. Pourtant, t'as de très bons romans jeunesse qui t'apprennent à lire, etc. Mais il est beaucoup plus simple de donner une BD. Et donc, t'as le rapport BD-manga qui font que c'est plus facile à donner à un enfant. Et après, l'enfant, il se construit avec et évolue et va vers des mangas plus adultes.
Et on voit régulièrement dans le train ou dans le métro des adultes, des cadres sup ou je sais pas quoi, qui sont des mangas. Ils se cachent plus, quoi, pratiquement.
Bah parce qu'ils ont évolué avec ça, alors qu'au Japon, ça existe peut-être depuis plus longtemps. C'est plus adapté, c'est plus présent dans leur culture que ça ne l'est avec nous. Maintenant, ça le devient, puisque l'univers geek, maintenant, touche un peu tout le monde.
Après, je vois tous les gens qui ont des liseuses électroniques. Non, je ne sais pas ce qu'ils lisent. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un Jules Verne ou un manga ou je ne sais pas, ou un livre de science-fiction ou je ne sais pas quoi.
Moi, je crois qu'ils jouent à Candy Crush.
Peut-être. Bah, ils font semblant de dire, mais ils jouent en fait. Sur les liseuses, c'est pas top. Mais...
Allez, on va continuer avec un groupe qui s'appelle Evis Beats. Alors, qui est tenu...
Tu peux le répéter 10 fois très vite.
Non. C'est Akira Yoshimura qui se fait connaître sous le nom Evis Beats, qui est un beatmaker originaire de Nara et qui s'est imposé un peu dans ce style. Alors on est sur un peu du hip-hop ici. Alors on peut pas dire J-pop, on dévie ailleurs. Et c'est vrai que c'est une autre part de la culture musicale du Japon qui est extrêmement intéressante et qui apporte quelque chose, je trouve, de nouveau. On va s'écouter le titre qui s'appelle « Get No Better ». But I be goddamned if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? 'Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke is better. A life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Think being broke is better. Life that's better than yours. No such thing, no such thing. For what's money without happiness?
or hard times without the people you love. Though I'm not sure what's about to happen next, I ask for strength from the Lord up above, cause I've been strong so far, but I can feel my grip loosening. Quick, do something before you lose it for good. Get it back and use it for good. And touch the people how you did like before. I'm tired of living with demons cause they always inviting more. Think being broke was better. Now I don't mean that phrase with no disrespect to all my niggas out there living in debt. Cash and minimal checks. Turn on the TV, see a nigga Rolex, and fantasize about a life with no stress. I mean this shit sincerely. And as a nigga who was once in your shoes, living with nothing to lose, I hope one day you hear me. Always gonna be a bigger house somewhere, but nigga, feel me. Long as the people in that motherfucker love you dearly. Always gonna be a whip that's better than the one you got. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock. Always gonna be a bitch that's better out there on the tours. But you ain't never gonna be happy till you love yours.
Such thing as a life that's better than yours.
Love yours.
Such thing as a life that's better than yours.
Love yours.
Such thing as a life that's better than yours.
Love yours.
No such thing, no such thing.
Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived.
Evitz Beats avec Get No Better.
C'est pas très japonais tout ça.
On arrive déjà à la fin de cette émission. Moi, ça sonnait un peu Samurai Champloo pour les connaisseurs.
Un des rares mangas avec de la musique hip-hop à l'intérieur.
C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a de superbes découvertes à faire dans le hip-hop au Japon. Voilà, on entamera ça peut-être lors d'une prochaine émission. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On n'a pas parlé de conquête spatiale, je suis tout perturbé.
Ça fait longtemps, c'est bien.
Voilà, allez, restez sur Radio Campus 106,6 et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.